Bonjour et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse. À mes côtés aujourd'hui, Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse. Bonjour Michel.
Bonjour.
Laurent Dominati, diplomate, homme de médias, directeur du site lesfrançais.press et président de l'association Sauver la Méditerranée. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et François Casasoprane, fondateur du mouvement Eco, qui signe son grand retour sur nos ondes. Bonjour François.
Bonjour.
Alors, nous ouvrons cette émission par les manifestations du 19 janvier dernier pour protester contre la réforme des retraites. Selon la police, plus d'un million de personnes a défilé dans toute la France. 2 millions, selon la CGT, un niveau proche, comme le rappellent les échos du maximum atteint le 12 octobre 2010, 230 000 personnes, pardonnez-moi, au pic de la contestation contre la réforme Woerth qui avait porté l'âge du départ à la retraite de 60 à 62 ans. Toujours en national, pas de chiffres concernant le secteur privé, mais du côté des fonctionnaires. Les appels à la grève ont été suivis par 29,5% des agents et des agents de l'éducation nationale en particulier. Dans les hôpitaux, le taux de grévistes a atteint 19,6%. Enfin, la fonction publique territoriale a connu un taux de grévistes de 14,4%. En Corse, justement, entre Ajaccio et Bastia, entre 2500 et 5000 personnes sont descendues dans la rue. Malgré la météo peu clémente, une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 31 janvier prochain. Avant cela, peut-on dire que les syndicats ont remporté cette première manche, du moins s'agissant de l'image, Michel Barra?
Bon, la manifestation est un succès du monde syndical. Pas sur les chiffres qu'ils donnent, d'ailleurs, on peut quand même... Je ne vois pas l'intérêt d'annoncer les chiffres qu'ils annoncent, qui sont tellement loin de la réalité, surtout qu'on a un succès. On se retrouverait quelques-uns... On sait très bien que même les chiffres du ministère de l'Intérieur sont supérieurs à la réalité quand on prend des organismes, disons, neutres. Mais cela dit, il y avait plus d'un million, 1,1 million, 1,2 million sur toute la France. C'est un succès, avec une remarque qui va toujours dans le sens du succès. Succès surtout dans les villes moyennes, plus que dans Paris. Et ça, en termes de mécontentement, que ce soit les villes qui aient eu du monde dans les villes moyennes, c'est quand même un signe important. Bon, c'est vrai que c'est d'abord une manifestation de la fonction publique. On y est habitué chez nous. On va pas dire que c'est ni bien ni mal. C'est comme ça. Point. On est habitué. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est un succès, ça a changé? Moi, je compte beaucoup sur les autres manifestations, sur LFI, pour détruire la réussite de ce qu'ont fait les syndicats. Ils ont déjà commencé samedi.
François Casasoprane.
C'est un très beau succès. Voilà, je pense qu'on est... je pense qu'en Corse, on a peut-être même dépassé les 5000 personnes. Il y avait énormément de monde dans le cortège ajaccien. J'ai l'impression qu'à Bastia, c'était à peu près pareil. Vous avez bien fait de rappeler la météo particulière. Il faisait extrêmement froid dans cette manifestation. C'est un très beau succès. Et il faut dire aussi que ce n'est pas qu'un succès des syndicats. Mais le fait marquant, c'est qu'on a un gouvernement qui se réjouissait après avoir atomisé les partis politiques, se réjouissait déjà de vouloir atomiser les syndicats, ou les corps intermédiaires, ou tous ceux qui avaient quelque chose à dire. Eh bien là, d'abord, il y avait un front commun de tous les syndicats. Je note qu'on nous compare souvent au reste de l'Europe. Au reste de l'Europe, quand tous les syndicats sont contre un projet de loi, généralement, on ne le dépose pas. On recommence à négocier. Là, le message, vraisemblablement, n'a pas été entendu. Donc je pense que le 31, ça sera rebelote. Il y aura encore plus de monde avec des choses à dire. Je pense pas, effectivement. Il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. Hein. Il y avait énormément de monde quand même à Paris, malgré tout, puisqu'il y a un itinéraire bis qui a été mis en place. Et je crois qu'il y a eu 30 casseurs arrêtés. Alors c'est 32 trop, vous me direz. C'est sûr, c'est condamnable. Mais ça a été une belle manifestation.
Laurent Dominati.
J'ai trouvé que cette journée était extrêmement rassurante. Je pensais être revenu 20 ans en arrière avec les beaux défilés de la CGT, avec des services d'ordre compétents qui ont empêché les casseurs. Et donc, on a l'impression de revoir un vieux film. Ça fait toujours plaisir, des années 70 ou 80. Bon, c'est sympa, oui. C'était un succès. Il y avait de beaux drapeaux, il y avait des beaux chants. C'était sympa. Il y a les enfants aussi, malgré le froid. Mais moi, j'ai l'impression d'être replongé complètement dans le passé. Et puis, est-ce que ça changera quelque chose? Je vous le dis très franchement, j'espère que non. La semaine dernière, je vous avais dit que la réforme a été bête et méchante, mais qu'il fallait la faire. Je ne peux pas changer d'avis, c'est une réforme bête et méchante. Et je pense qu'il faut la faire financièrement. Bon, voilà. Il n'y a pas tellement de solutions. Et je pense d'ailleurs que les syndicats ne se font pas trop d'illusions non plus. Ils ont quand même réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de réforme pendant maintenant 8 ans, ou je crois que ça fait 8 ans qu'il n'y a pas de réforme des retraites. La dernière, c'était François Hollande qui l'avait faite, qui avait d'ailleurs prolongé l'âge de la retraite,
La durée de cotisation.
Oui, bon, ça revient.
C'est pas tout à fait pareil.
D'accord. Enfin, il avait fait l'inverse de ce qu'il avait dit pendant la campagne, parce qu'il y a un problème financier évident.
Pas vrai non plus, parce qu'il avait raccourci pour les carrières longues.
C'est pas grave.
Allez, François, on laisse finir Laurent et vous répondrez.
Et donc là, ils ont réussi quand même à freiner ces réformes avec l'aide du Covid. Pendant un certain temps, je pense que cette réforme passera parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Il y a des solutions, et je l'ai dit la semaine dernière, plus intelligentes, plus modernes, plus audacieuses. Mais pour les faire, en réalité, il faut avoir à ce moment-là le soutien des syndicats. Et le problème qui vient d'être soulevé, c'est que les syndicats, pour beaucoup, ont abandonné parfois le sens des responsabilités. Moi, je me souviens, Jean-Pierre Raffarin étant Premier ministre, il y avait une réforme des retraites, c'était avec Fillon. On était arrivé à un accord avec plusieurs syndicats. Malheureusement, tout s'est effondré. Il n'y a plus d'accord. Il y avait eu à l'époque 2 millions de personnes dans la rue, voire plus. Bon, je pense qu'effectivement, ce serait beaucoup mieux d'avoir des corps intermédiaires de négociation. Maintenant, est-ce qu'il y a des propositions de changement vraiment du système avec une pérennité du système, un système juste, simple, efficace, etc. Très franchement, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on en parle et il n'y a jamais d'accord, jamais. Bon, alors maintenant, il y a un problème financier, il faut le régler, puis c'est tout.
Alors, François, puis Michel.
Alors, juste, la réponse, elle est venue aussi de cette belle manifestation. Il y avait du monde, elle est soutenue par la population dans tous les sondages, elle est comprise. Et la plus belle réponse qui a été faite à cette manifestation, c'est le président du Conseil d'orientation des retraites qui l'a faite, en disant que, contrairement à ce que disait le gouvernement, il n'y a pas de scénario catastrophe. On ne va pas dans le mur avec le régime des retraites. Il y a des rééquilibrages à faire, mais on ne va pas dans le mur. Donc on a le temps. Donc on a le temps de se poser, on a le temps de discuter, on a le temps de négocier. Et on a le temps d'arrêter avec cette injustice qui dit que nous sommes le pays d'Europe où, quand on a un problème, on rallonge la durée de cotisation et... Et en plus, la double peine, on reporte l'âge de retraite, l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire, on a la double peine. Et celui qui a dit ça, c'est assez extraordinaire, c'est le président Macron, quand il défendait son ancien système de retraite, son ancienne réforme de retraite, qu'il a reculé avec 1,2 million de personnes dans la rue, mais maintenant, il en a un qu'il condamnait déjà par avance il y a quelques mois. C'est assez... Je pense que la bataille perdue par le gouvernement, c'est celle d'expliquer qu'on va dans le mur et qu'il faut faire quelque chose et qu'heureusement que le gouvernement est là pour faire ça. Je pense que c'est la première bataille. La deuxième, c'est sur le caractère injuste de cette réforme. On ne peut pas passer à la radio, à la télé, dans les médias et expliquer simplement parce qu'on a un docteur en communication qui dit qu'il faut mettre le mot justice et le mot juste dans chaque phrase. Et c'est espérer convaincre les Français, notamment ceux où elle a un effet très dur, c'est qu'il y a des gens qui vont passer à 44 années de cotisation. Ça, c'est très dur et c'est immédiat, c'est à partir du mois de septembre prochain. Et ça, c'est profondément injuste et on a beau répéter le mot justice, comme le fait la Première ministre à chaque phrase, on est loin de convaincre.
Laurent, vous souhaitez réagir?
Oui, enfin, le Conseil d'orientation des retraites est assez précis quand même, hein. Président, je ne sais même plus qui c'est tellement il change, mais le Conseil d'orientation des retraites et tous les rapports qui sont faits sont simples. Hein. Il y a actuellement 2 cotisants pour un travailleur 7. Et demain, ce sera un 6.
On est même plus à 2, on est à 1,7. Hein.
Quant aux autres pays d'Europe et sur la justice, bien, encore une fois, la France est le pays, même à 64 ans, où on prendra en Europe sa retraite le plus tôt. Voilà. Donc il ne faut pas... Quant à la justice... Moi, la conception de la justice, c'est pas de dire j'avais ça avant et j'ai plus ça après. Ma conception de la justice, c'est que l'effort soit également réparti quand il y en a un et les bénéfices aussi. Et que donc la justice, pour moi, c'est ça. On doit être traité à la même enseigne. Et donc, on doit avoir... Le président Macron avait une excellente formule pour 1 euro de retraite. quel que soit le système, vous aurez la même retraite. J'ai trouvé que c'est un très bon principe. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je regrette qu'il ait mis un peu de côté son ancienne réforme, qui me semble un peu plus audacieuse, avec beaucoup d'imperfections comme tout changement, mais je la trouvais effectivement plus moderne que celle-là où simplement, bon, recule l'âge de cotisation. Cela étant, non, il y a quand même un problème de financement des retraites qui est tout simplement un problème démographique et de rapport entre la population active et la population qui prend sa retraite, c'est-à-dire qui vit plus longtemps. Tant mieux.
Alors, Michel. Une remarque sur le corps. Est-ce que le corps dira en 48 heures la même chose? Vous savez, le propre du corps, c'est de dire le tout et l'inverse de tout. Il n'a aucune permanence dans les propos qu'il tient. Et deuxièmement, en plus, le corps, il oublie une chose. C'est que c'est absolument pas quelque chose qui va observer avec justesse les retraites, ce qu'il devrait faire. Puisqu'il manque une chose, il manque toutes les retraites de la fonction publique dans les chiffres du corps. Ce qui est quand même, dans un pays comme la France, important. Qu'il s'agisse de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Donc, ce que dit le corps est faux. Alors maintenant, en plus, le corps, c'est une sorte d'organisation, de consensus, par des gens qui sont absolument pas là. On aura une grande assemblée générale du Parti Socialiste, dans laquelle le président ferait la synthèse. La mode de la synthèse au PS est aujourd'hui quelque chose qui semble être révolu. J'espère que le corps, où il y a quand même des gens sérieux, je fais une petite correction, j'espère que ça ne deviendra pas tout complètement une assemblée générale du Parti Socialiste. Bon, cela dit, je suis d'accord avec Laurent, c'est la réforme qui est là, elle est techniquement quasiment obligatoire, parce qu'il faudrait, calculer, non pas par simplement la durée des cotisations ou l'âge de la retraite, il faudrait aussi compter par le nombre d'heures travaillées en moyenne par personne en France. On s'apercevra qu'on est le pays d'Europe qui travaille le moins, par le nombre d'heures travaillées. Hein, c'est-à-dire si on tient les congés, la retraite et tout. Par contre, avec une productivité un peu plus importante. Il faut tout dire. Mais si ça veut dire une productivité plus importante, c'est-à-dire des conditions de travail moins bonnes. Ah ben oui, c'est que la pression est moins bonne. Donc on travaille moins bien et moins longtemps. Alors, c'est un problème quand même. Bon, cela dit, deuxième remarque sur la manifestation. C'est effectivement, et ça il faut le souligner, parce que c'est valable des deux côtés, le calme. Les arrestations étaient des arrestations qui étaient liées à des choses qui n'avaient rien à voir avec les manifestants. Au fait, donc on pouvait faire autrement que le préfet allemand. Petite remarque en passant. C'est un vrai professionnel du maintien de l'ordre qui est préfet de police aujourd'hui. C'est remarquablement bien fait. Et c'est remarquablement bien fait du côté des services d'ordre de syndicats. Mais je crois qu'il faut le souligner parce que cela fait partie de la réussite de la manifestation. Alors maintenant, le système de retraite, je trouve ça extraordinaire qu'un pays fasse sa politique comme principale sur les retraites. C'est-à-dire qu'on regarde dans le passé. C'est bien les retraites, il faut en parler. Mais le point principal de la politique française, c'est à la retraite. C'est très bien pour moi, je suis à la retraite, c'est bien. Nous sommes un pays, c'est vrai, de retraités, et on y sera de plus en plus, ce qui prouve donc qu'il faut bien faire une réforme. Mais intellectuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. De tous côtés, alors là, c'est aussi vrai pour le gouvernement que l'autre côté, il faudrait peut-être regarder les choses autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a échoué sur le premier projet. Le premier projet était une vraie réforme qui regardait l'avenir. On changeait, on passait à un système par points qui posait de gros problèmes pour la fonction publique, un système par points. Ça impliquait des augmentations de salaire très importantes qu'on pouvait peut-être pas faire. Mais bon, qui a tué la réforme par points? Malheureusement, quelqu'un que j'aime bien, alors je le dis d'autant plus, hein. C'est le Premier ministre de l'époque qui s'est fixé sur son âge pivot. Il ne serait pas fixé sur son âge pivot, la réforme par points, elle passait. Et après, il mettait après son âge pivot en mesure paramétrique. Tactiquement, j'ai eu du mal à comprendre. Mais la première réforme était une vraie réforme. On est pour, on est contre. Ça, ce sont des ajustements. Alors, on met 2 millions de personnes, ou 1,5 million, peu importe, dans les rues pour faire de l'ajustement, c'est-à-dire sauter pour mieux recommencer dans 10 ans.
Dernier tour de table sur le sujet. Est-ce que vous sentez le mouvement s'essouffler ou plutôt se renforcer d'ici le 31 janvier, François ?
On verra. Moi, je pense qu'il n'a pas de raison de s'essouffler. Michel Barrat l'a dit, c'est la retraite, ça a toujours été un point de la vie politique, du système politique, assez irritant, mais aussi quelque chose où il se construit de beaux consensus, de beaux compromis plutôt. Parce que c'est le système français. Mais en ce moment, on est en train de bousculer le système français sur l'assurance chômage. On est en train de le bousculer sur les retraites. On est en train peut-être de le bousculer sur la Sécu. Moi, j'ai l'impression qu'on a des gens qui n'aiment pas le système français, qui n'y croient plus, qui n'y croient pas. Y ont-ils déjà cru ? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est quand même un retour dans le passé, parce que c'est une rengaine qu'on entendait au milieu des années 80, fin des années 80. Ça ne va pas très bien en France, alors qu'on est au plein emploi. Hein. Ça ne va pas très bien en France, et c'est parce qu'on ne travaille pas assez, parce que vous avez trop de droits, parce que vous êtes bientôt, on va nous dire, que les travailleurs sont des fainéants. Et donc, il faut en rabattre. On est peut-être un pays où on travaille moins que les autres, mais on a été, au cours des 10 dernières années, souvent le pays où on a créé le plus de richesses. C'est-à-dire où on a distribué le plus de dividendes. Donc l'injustice, elle est un petit peu là. C'est-à-dire qu'on distribue beaucoup de dividendes, un peu épargnés par l'imposition, mais en contrepartie, on montre du doigt un certain nombre de personnes. Maintenant, j'ai bien compris qu'on a un président qui considère que les régimes spéciaux, c'est ce qui détruit la France. Mais en même temps, il les maintient. D'ailleurs, il les maintient à juste titre. On fait un travail différent, dans des conditions différentes. Donc on a un régime de retraite qui s'adapte. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas tous à réformer. Il y a certainement des métiers qui étaient spécifiques il y a 50 ans ou 60 ans, qui le sont un petit peu moins aujourd'hui. Mais en tout cas, le régime spécial, c'est quelque chose de justice. Alors, bien compris qu'on est aujourd'hui dans « dès que vous avez un droit de plus que votre voisin, vous êtes un privilégié, taisez-vous ». Ça, c'est des vieilles rengaines. Et c'est des vieilles rengaines au moment où le pays a besoin d'unité. Et je trouve qu'en ce moment, on aurait plutôt besoin, avec tous les syndicats qui sont vent debout contre ce projet de réforme, plutôt de s'écouter un petit peu. Ce qui est terrible, c'est qu'on a choisi un véhicule législatif qui contraint le débat parlementaire à 50 jours. Alors je veux bien, on a peur de M. Mélenchon, de ses 5000 amendements que son groupe va déposer, ou 75 000, et d'un débat à rallonge. Mais ça veut dire que dans 50 jours, le débat sera clos. Vous imaginez, après tout ce qu'a traversé le pays, la guerre aux frontières, tous les syndicats qui sont contre un projet de réforme et leur expliquer « on négociera pas et dans 50 jours, c'est plié », c'est très brutal. C'est très, très brutal. Et je trouve que dans cette période, président de la République, un chef de l'État devrait être capable de dire « on a besoin avant tout de se réunir ». Avant tout. Je trouve qu'il a tenu plus ou moins son rôle dans la crise sanitaire. Ben, je pense que ça aurait pu être. Il a été porté quand même aussi par des gens qui n'étaient pas convaincus par sa politique et qui, il y a moins d'un an, ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de l'autre choix. Très dur. Ben, je pense que les entendre. On a eu des présidents de la République dans le passé, quel que soit leur bord, qui l'ont fait, hein, et qui ont été capables de réunir le pays dans de belles occasions, parfois dans des crises. Je pense qu'il se grandirait. Il a en tout cas l'élection récente pour le faire. Il a ce côté jeune et cette volonté de moderniser. Ben, la première modernité, ça serait de réunir et d'écouter, qu'on s'écoute enfin dans ce pays.
Laurent Dominati, c'est le timing qui ne va pas.
Oui, mais enfin, il a écouté les syndicats pendant 2 ans avec M. Delavoye. Il a renégocié la première réforme. Ça fait encore une fois des années et des années qu'on chacun dit la même chose. Augmenter les cotisations patronales, ne pas baisser, diminuer les pensions ou ne pas diminuer les pensions, etc. Bon, la concertation, il faut qu'il y ait un petit peu de bonne foi aussi. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. On tourne en rond, c'est ce qu'on fait depuis des années. Moi, je crois que ce que vous avez dit est assez juste sur l'État. C'est pas qu'il y a un problème d'aimer ou de pas aimer le système français ou le système. C'est que dans les domaines de l'État, il y a, et qui sont de sa seule ou principale responsabilité, il y a à peu près une crise et des failles partout. On le voit pour l'hôpital, on le voit pour la santé, on le voit pour l'éducation nationale, on le voit pour la justice, on le voit pour la police, on le voit pour la sécurité sociale. Et là, ça, c'est une question très, très angoissante pour les Français, parce que la France s'est souvent, enfin, même quasiment, constituée autour de son État. Et donc, quand l'État est malade, et il est malade dans toutes les fonctions publiques et dans toutes ses missions, ben, il y a deux solutions. On met plus d'argent en pensant que le balcomaté, mais visiblement, ça ne marche pas parce qu'il faut regarder l'hôpital. On dit toujours qu'on a sacrifié l'hôpital. Je regardais, depuis 2000, on a augmenté les ressources d'hôpital de 30%. C'est beaucoup plus que tout ce qui s'est passé ailleurs. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est un système qu'il faut changer. Ça veut, s'il faut passer d'un système à un autre, ça ne veut pas dire qu'on n'aimait pas l'ancien. Ça veut dire qu'il faut un autre système, parce qu'au bout d'un certain temps, eh ben, il faut changer. Voilà. L'organisation territoriale, il faut changer la sécurité. Hein. Je me souviens, moi, j'étais à l'Assemblée, j'avais fait un projet de loi pour les polices municipales. Tout le monde était contre. Je me suis fait insulter. Je voulais détruire l'État. Je voudrais savoir maintenant quel est le maire qui n'a pas sa police municipale dès qu'il y a plus de 5000 habitants. Tout le monde est pour. Et encore, attendez, moi j'étais modéré. Je ne les voulais pas armés. Vous voyez à quel point j'étais naïf. Je me disais, bon, attends, ce sont des gardes champêtres simplement pour la paix publique et la sécurité de la rue. Et donc pas armés. Maintenant, ils ont tous carrément, tous, ils ne sont pas des bazookas, des policiers municipaux. Non, mais c'est vrai, on dirait Robocop parfois. Or, moi, dans mon idée, c'était plutôt les sergents de ville, vous voyez, bon, les bobbies anglais. Bon, et donc c'était simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas dire que j'avais raison dans tout le monde, puisque vous voyez, moi je ne les voulais pas armés, je me suis trompé. Il fallait évidemment les armer parce que la violence est telle que s'ils ne sont pas armés, c'est des cibles. Mais donc tout le monde peut se tromper. Mais je veux dire, l'évolution même de la mission de sécurité qui était considérée comme un monopole, 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 monopole de l'État, y compris par les maires, quels que soient les partis, parce que Pasqua était contre, je me souviens d'une discussion que j'avais avec Pasqua, et les socialistes étaient totalement contre aussi. Eh ben finalement, ils ont tous évolué. Pourquoi ? Parce que la société change et que les missions et le rôle de l'État doivent changer. Eh bien, pour ces fonctions qui sont des fonctions de l'État, on peut même ajouter quasiment les transports. Hein. Transport, santé, énergie, EDF, c'était une entreprise magnifique. Magnifique, c'était un fleuron de la France. Maintenant, regardez, en réalité, elle est quasiment en faillite. Hein. Faut bien voir, la pseudo-nationalisation, c'est un déguisement de la faillite due à l'État. Donc, si on ne remet pas en cause... En cause, c'est pas en cause, en réalité, mon mot est très mauvais. Si on n'essaye pas de trouver des solutions de changement de système dans les missions même de l'État, alors bon, on continuera à s'enfoncer. Voilà.
Oui, non, mais je crois qu'il faut voir
Michel, rapidement.
Ces structures. Ce sont des structures qui datent entre 1945 et 1950, avec une référence qui est le Conseil national de la Résistance. C'est-à-dire de la rencontre du communisme et du gaullisme intégral. Est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui ? Ben non. Nous savons que toutes les choses venues de cela ont fait faillite partout au monde. Faillite ! Ce système-là n'est plus tenable. Alors, il était efficace à un certain moment. Je regarde, il y a parlé de l'éducation nationale, qui est un sujet que je tiens bien. Le statut de l'éducation nationale, c'est un statut de 1950. C'est pas possible. C'est pas possible. On a massifié l'école. En 1950, c'était pas vrai. Il n'y avait pas 30% des élèves qui allaient en lycée. Aujourd'hui, c'est plus de 80%, c'est 80%, voire plus. Donc, on ne peut pas tenir sur ces systèmes-là. Si vous voulez, en bon marxiste que je ne suis pas, je pourrais dire que l'augmentation quantitative modifie nécessairement les structures qualitatives. Ben oui, c'est du marxisme. Non, mais on n'a rien changé. C'est-à-dire, on reste dans le même moule de pensée. Y compris d'ailleurs sur cette réforme des retraites. Parce qu'elle se fait toujours dans le cadre. C'est pour ça que je préférais l'autre qui changeait. Après tout, sur la réforme des retraites, est-ce qu'il serait si stupide de dire qu'une part de capitalisation ne serait pas la pire des solutions ? Est-ce qu'un système par capitalisation avec des fonds qui seraient des fonds d'investissement d'État, d'abord, et des fonds de pension français, on n'en a pas, n'aurait pas permis en fait des retraites à meilleur niveau, y compris pour les petites retraites, et un système qui fonctionne mieux. C'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusque-là? Mais là, cette fois-ci, je me ferais houspiller de la même manière que Laurent s'est fait houspiller sur les polices municipales à l'époque. Mais il faut réfléchir. Bon, honnêtement, je ne pense pas qu'il faille aller complètement sur un système par capitalisation, mais une partie par capitalisation. N'oubliez pas que ces syndicats qui manifestent de la rue, dans la rue, sont ceux qui gèrent un système par capitalisation, ça s'appelle le préfond. Mais si c'est une partie, ce n'est pas la même chose que si c'est la totalité.
Allez, cette semaine, l'Assemblée de Corse devra se prononcer sur les orientations budgétaires de la collectivité de Corse 2023. Quelques chiffres en vrac. Le budget qui sera présenté devant l'Assemblée de Corse devra permettre d'investir 350 millions d'euros en 2023. Les dépenses de fonctionnement devraient augmenter de 3,8% par rapport à 2022. En novembre 2022, toujours, la collectivité de Corse comptait 4 470 agents contre 4 329 en janvier de la même année. Au 31 décembre 2022, la dette de la collectivité de Corse s'élevait à près de 998 millions d'euros. Pour mémoire, elle était de 935 millions d'euros au 31 décembre 2021. Les chiffres sont importants, certes, mais le principe des orientations est de savoir ce qu'on va faire de ces chiffres, de cet argent. Est-ce que ça en fait le document le plus politique d'une majorité, Laurent Dominati?
Oui et non. C'est un exercice imposé, hein, donc pour toutes les collectivités, qui vient en réalité, comment il est fait généralement? Il y a une discussion entre direction politique, si vous voulez, et l'administration. L'administration a des orientations. Elle rédige un document qu'elle fait rédiger d'ailleurs par les différentes sections d'administration. C'est un document administratif et comptable. Alors ensuite, le responsable politique, l'élu, regarde, dit oui, ouais, ça va, ça va pas, corrige, met un petit grain de sel un petit peu plus rhétorique et un petit peu plus séducteur pour se vanter un petit peu plus de ce qui est mis de façon un peu froide et comptable par une administration plus administrative, ce qui est logique. Et puis à la fin, on en fait un document qui n'est ni vraiment un audit comptable, ni vraiment un document politique, et qui donne ceci. Et honnêtement, hein, je vous le disais en off, j'ai lu celui-ci avec attention. Je ne l'ai pas lu dans le... Enfin, je l'ai lu complètement, mais je n'ai pas surtout les annexes, c'est-à-dire ce qui est important, c'est-à-dire les documents comptables qui vont avec. Et je trouve qu'il est plutôt bien fait. J'en ai vu beaucoup dans ma vie des documents d'orientation budgétaire, que ce soit d'ailleurs pour l'État ou pour les collectivités locales et diverses. J'en ai vu pas mal. Je trouve que celui-là montre une certaine qualité dans la réflexion, dans la présentation des choses. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas bien pu comprendre, parce qu'il y a des choses qui me semblent un peu curieuses.
Comme
mais
quoi,
c'est
par
le cas
exemple
dans toutes les orientations budgétaires et dans tous les documents. Le vrai document politique, alors celui-là qui est absolument illisible, il est fait pour être illisible, c'est le budget.
Oui.
Il est fait pour être illisible, pour surtout qu'on ne voit pas tous les défauts qu'il y a, parce qu'il y en a toujours. Et c'est celui-là qui est intéressant, mais peu prennent le temps de le lire et de le décortiquer avec des gens qui savent où sont cachés tels et tels éléments. La manipulation la plus simple d'un budget, c'est que vous changez le périmètre de la ligne. Vous voyez, alors, oui, vous augmentez de 15%, en réalité, vous avez rajouté ceci, vous baissez de 15%. Voilà. Bon, là, dans le document de la collectivité de Corse, si ce qu'ils disent est sous réserve d'inventaire et de vérification est exact, l'endettement est important, il est très important, mais enfin, il n'est pas démentiel, il n'est pas comme la ville de Paris, par exemple, il est pas, la Corse n'est pas ruinée comme la ville de Paris. Je dis toujours ça parce que comme j'ai été élu à Paris et que je vois que Mme Hidalgo n'est pas une de mes amies, je remarque qu'au bout de 20 ans, nous, on avait fait un trésor, non seulement elle est dépensée, mais en plus, elle creuse. Bon, voilà.
C'est
peu importe.
C'est le changement de système.
Elle a changé le système. Ça, c'est vrai que là, bientôt, Paris sera sous gel. Pas la Corse, heureusement. Donc, pour l'instant, ça va. Les dépenses de fonctionnement, elles augmentent, mais à peu près comme partout. Évidemment, dans le document, la collectivité se plaint du fait que l'État ne mette pas assez d'argent. 1 milliard pour le PTIC, c'est pas si mal quand même. Je trouve que c'est pas si mal. Toutes les régions n'ont pas cela. D'ailleurs, il y a des contradictions parce qu'ils disent que ça fait 70 millions par an. Si je multiplie par 10, ça ne fait que 700. Mais enfin, vous voyez, ces petits détails comptables, à 300 millions près, on ne va pas discuter quand même. On va pas s'embêter à
c'est
ça.
Vulgaire.
Bref, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Je n'ai pas trouvé le RSA, ou alors très peu. Hein, on en parlait avec François Casasoprano. On ne trouve pas vraiment des chiffres. Enfin, en tout cas, on ne trouve pas. Enfin, pour ma part, mais peut-être est-il ailleurs. Peut-être y a-t-il un budget social, on en parlait tous les deux. Peut-être, vu justement le taux, comment dirais-je, le seuil de pauvreté en Corse et le nombre de gens qui sont en dessous, je m'attendais à des chiffres beaucoup plus importants. Mais encore une fois, on ne peut analyser ce document que si on a le budget à côté et que si on a les documents des années précédentes. Pour le reste, je le trouve pas si mal. La création d'un budget vert, c'est une très bonne idée.
J'allais vous interroger sur ce point, justement.
Oui, je trouve que c'est
justement.
Pas mal. Honnêtement, on peut toujours critiquer. Là, je m'amuse parce que, bon, on est ici, puis si on dit que du bien des uns et des autres, c'est pas très drôle. Mais franchement, je le trouve plutôt sérieux, enfin bien fait. J'en ai vu d'autres, je peux vous assurer que je n'aurais pas dit ça.
D'accord. Est-ce que, Michel Varra, est-ce que vous y voyez une vision de la Corse, un projet?
Vraiment, je partage ces deux vidéos, c'est plutôt bien fait. Maintenant, deuxième type de problème, soyons sérieux. Le débat d'orientation budgétaire, c'est du folklore. Le vrai discussion, le vrai outil politique, c'est le budget. Bon, cela dit, hein, c'est vrai pour la Corse, c'est vrai pour toutes les autres, c'est vrai pour la plus petite mairie qui soit. Donc, ne critiquons pas cela, l'Assemblée de Corse, sur un sujet qui est en fait l'orientation, le choix d'avoir ajouté le débat d'orientation budgétaire était quelque chose de totalement démagogique pour faire croire que les gens allaient comprendre les documents, ils ne les comprennent pas plus qu'ils ne les comprenaient avant. Donc c'est une chose assez... Alors, quand on le regarde, y a-t-il une vision? Moi, la question, je me pose deux questions, une générale. Est-ce que l'autonomie signifie plus de subventions d'État et plus de subventions européennes? C'est peut-être vrai. Alors, moi qui ne suis pas très de ce côté-là, après tout, pourquoi pas, ça fera plus d'État et plus d'Europe. Bon, il faut quand même regarder. Deuxième chose, une chose qui est assez intéressante, et ça ne peut pas être autrement, ce n'est pas une critique. Regardez la part de néo-transport. Mais ça décrit la réalité de ce qu'est la Corse. Ce qui signifie, quand on parle de transport, ça signifie que l'île ne peut pas exister sans aller dehors. C'est une vision qui devrait plus être étoffée politiquement et d'en tirer toutes les conséquences. Bon, petite remarque, mais là, elle est petite, c'est presque de ma part une sorte de, je veux dire, d'atavisme ou de déformation professionnelle. Je trouve que le côté éducation-culture n'est pas extraordinairement fort. Et surtout si j'enlève tout ce qui a trait, eux, ils diront à la co-officialité, ben je dirais à la langue corse, il ne reste plus grand-chose.
Moins de 5%. Moins de 5%, ouais. Même pas.
Je trouve que ce n'est pas extraordinaire. Bon, cela dit, c'est une déformation professionnelle et qu'on pourrait me le reprocher de lire. Cela dit, donc, je suis d'accord, je dis, globalement, c'est plutôt bien ficelé. Maintenant, il faudra regarder les décalages entre les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. Parce que bon, y a des AE là-dessus, mais je n'ai pas très bien compris l'articulation entre les autorisations d'engagement et les autorisations de programme. Bon, j'ai lu peut-être très vite, mais là, c'est un vrai sujet. Puis maintenant, c'est dans le budget qu'on va voir. Et comme à travers un chapitre, on peut passer de ligne à ligne, c'est là que ça va se jouer. C'est de ligne à ligne au sein des mêmes chapitres.
François, Casasoprane.
Le débat d'orientation budgétaire, ça ne peut pas être le document politique. D'abord, il n'est pas voté. Donc, démocratiquement, ça ne peut pas l'être. Là où c'est difficile, c'est que vous devez présenter des orientations, mais vous devez laisser suffisamment de marge au débat pour que le budget s'inspire du débat et non pas de ce qu'il y a eu avant. C'est la règle démocratique aussi. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup... les présentations, les orientations de l'exécutif soient amenées à beaucoup bouger, quelle que soit la teneur du débat. Et à mon avis, il y aura beaucoup de débats, y compris à l'intérieur de la même famille.
Et quels que soient les exécutifs.
Mais là, en l'occurrence, il a l'air construit aussi de telle manière qu'il ne bougera pas beaucoup, ce qui peut interroger d'un point de vue démocratique, administratif, peu importe. Bon. Première remarque. Deuxième remarque, quel bel exercice d'en même temps. On se croirait revenu à la réforme des retraites et à nos débats précédents. C'est une leçon du en même temps présidentiel.
Quelques exemples.
On veut énormément d'autonomie. On est garant des intérêts matériels et moraux du peuple corse sans savoir exactement ce qu'on y met derrière, parce que les intérêts moraux et matériels, il y aurait beaucoup à dire sur ceux qui les ont défendus, ceux qui ne les ont pas défendus au cours des décennies passées. Je fais aucun procès d'intention, mais quand on annonce ce genre de phrase, il faut aussi de vrais engagements, pas simplement comptables et budgétaires, mais de vrais engagements politiques. Mais par contre, on dit, on ne pourra continuer à investir, c'est la finalité, à juste titre, que si on a le soutien de l'État et de l'Europe. C'est quel bel exercice en même temps. Et encore, n'y voyez aucune critique. Je remarque simplement que c'est presque un numéro d'équilibriste. Troisièmement, sur les orientations, il y a quelque chose un peu saugrenu. Moi, j'ai l'impression qu'on a une espèce de profession de foi de campagne électorale. Voilà, on veut une politique internationale, pas simplement méditerranée, ce qui, je trouve, aurait été fort judicieux. Ça y est, faut reconnaître.
Oui, un petit paragraphe.
On veut aller jusqu'aux États-Unis, au Canada, parce qu'on va s'inspirer de l'économie. J'ai peur que l'autonomie parle de la réforme des retraites aussi, qu'on nous intègre ce qui vient du Canada et des États-Unis.
T'as raison, parce que si c'est la Corse qui paye les retraites,
j'ai peur.
Les Corse,
j'ai très peur. Mais petite boutade à l'égard de mes collègues et camarades. Mais voilà, il y a des choses assez saugrenues, très peu quand même sur le social, alors qu'on part du constat, quand même qu'il y a une paupérisation. J'ai l'impression quand même que c'est un exercice contraint et qu'on ne veut pas trop parler des contraintes, ce qui est quand même dommage dans un débat d'orientation budgétaire. Et je pense en plus que ce n'est pas une tâche facile d'être aux commandes d'une collectivité comme la collectivité de Corse en ce moment. Ce n'est pas une tâche facile de toujours essayer de la mettre en place avec les contraintes budgétaires et financières actuelles. Et je pense que ce débat aurait peut-être eu, puisqu'il a été communiqué, le document a été communiqué peut-être même avant les élus, je ne sais pas, que les élus en aient connaissance. Peut-être que justement, que ça fasse un peu œuvre de pédagogie, ça aurait été aussi au profit de l'exécutif qui aurait pu défendre un certain nombre d'orientations. Parce que le budget vert, je veux bien, mais comment on avance sur les déchets, comment on avance sur l'énergie, comment on avance sur toutes ces questions. Et je pense que parler beaucoup plus des contraintes réelles et les prendre à son compte, ça aurait été un exercice et démocratiquement plus juste, mais aussi peut-être plus productif pour les orientations que l'exécutif semble vouloir porter.
Allez, on y reviendra au moment du
budget. Excusez-moi, juste Laurent, un mot, parce qu'il faut dire à nos auditeurs comment en réalité on fait un budget. Comment on fait un budget ? Ben, on prend les dépenses de l'année précédente, on les reproduit, on met un pourcentage d'augmentation quasi automatique, par exemple pour les salaires ou pour l'inflation, etc. On a ces différentes masses, ces différents postes, qui sont en quelque sorte les dépenses contraintes, les obligations. On regarde ce qui avait été prévu et voté les années précédentes et qui ont un impact sur les années suivantes. Et puis, on regarde ce qui reste et après, on oriente, on prend ici et là. Voilà, c'est juste une précision un peu technique, comment on fait un budget. Voilà. Et donc, quand François Casasoprane parle des dépenses contraintes, oui, c'est très important de dire, bon, en réalité, ma marge de manœuvre, elle est nulle, elle est négative ou elle est positive de temps. Et de ce temps, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut faire ? Et comment on peut trouver des marges de manœuvre ? Parce qu'en réalité, un vrai débat, ce serait ça. Voilà les contraintes, voilà ce qu'on a envie de faire. Comment, où est-ce qu'on va faire des économies pour faire des investissements ? Quelles sont nos priorités de l'action publique ? Mais les priorités, quand vous avez de toute façon des contraintes, ça veut dire que vous devez faire des choix qui diminuent d'un côté pour avoir des augmentations de l'autre. Voilà, c'est un exercice qui, je le reconnais, n'est évidemment pas facile, parce que dès que vous voulez diminuer quelque part, vous avez forcément des critiques.
Une petite remarque technique aussi, où Laurent a raison. Il faut quand même rappeler que les budgets des collectivités sont nécessairement en équilibre, contrairement au budget de l'État. Ce qui change tout, quand même. Ça donne des contraintes qui ne sont pas légères. Donc ça, il faut y tenir compte. Maintenant, après tout, ce qu'on a vu là, c'est de bons documents moyens d'une collectivité territoriale qui fait son travail sérieusement. Après... on ne sait pas, c'est un vrai type de problème. Maintenant, si on veut, quand on fait le budget, on essaye de reprendre des excédents du fonctionnement pour le mettre ensuite en investissement. Je voudrais voir s'il y a eu des excédents de fonctionnement et de combien, ce qu'on va mettre, et puis si on va pouvoir encore redégager pour l'avenir des excédents dans le fonctionnement pour pouvoir avoir des investissements. Mais ça...
C'est, par exemple, l'exemple sur la dette. C'est vrai que ce n'est pas une collectivité. Toutes les collectivités sont endettées. Et il ne faut pas dire, que celle-ci est particulièrement endettée. Mais on est à 1 milliard quasiment de dette. Il faut voir la structure de cette dette. Il faut voir ce que la collectivité va être obligée d'emprunter et à quel taux elle va emprunter. Quand vous investissez Vous avez aussi, et ça produit des richesses, notamment des récupérations de taxes, mais ça produit aussi une charge. Il faut mettre tout ça en perspective pour montrer si la trajectoire, le mot qui revient souvent dans le débat d'orientation budgétaire, quelle est cette trajectoire ? Est-ce qu'elle est soutenable sur 3, 4 ans, 5 ans ? Est-ce qu'elle est profitable aussi à l'ensemble ? Là, on rentre dans un débat un peu plus au fond, mais si vous investissez davantage sur des dépenses de transfert ou sur des dépenses productives, c'est pas quelque chose... Alors, c'est un exercice très compliqué. Mais je pense que c'était peut-être le moment de le faire. Ça fait, ça doit être le septième budget, je crois, que cette majorité va voter. Alors, elle a changé un peu, cette majorité de contour.
Elle a changé de contour, mais elle est surtout absolue.
Voilà, et en plus, elle est absolue. Donc, cet exercice, loin... Je le vois pas pour, comme une critique à l'égard de l'exécutif. Je le vois au contraire comme un geste démocratique assez fort. Voilà mon projet. J'ai été réélu il n'y a pas si longtemps. Voilà mon projet. Voilà mes contraintes. Et voilà les efforts que je vais vous demander aussi. Et je pense là aussi que les efforts, on en parlait tout à l'heure, ce qu'on voit entre les lignes, c'est que c'est pas très juste, les efforts. Voilà.
Oui, mais un budget ne se fait jamais en concertation, même avec l'opposition ou avec les services. Enfin, je veux dire, c'est...
Il se fait avec les services, si.
Il se fait avec les services. Je pense qu'il doit se faire quand même, et quand on parlait des évolutions, il se fait quand même beaucoup aussi avec les attentes de la population, à la fois de manière très ascendante. Hein. Vous savez, c'est la grande mode des budgets participatifs, des budgets territorialisés. Ouais. Ça vous verra peut-être sur le sujet précédent. Moi, j'aurais bien aimé voir, on parle beaucoup de dépenses d'aménagement du territoire. C'est quoi les orientations sur l'aménagement du territoire ? Voilà, par exemple, un sujet qui me tient à cœur, vous l'avez compris, la justice, l'aménagement du territoire. Ben, il y a des quartiers politiques de la ville, il y a des problématiques politiques de la ville dans au moins 3 grandes villes de Corse. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Voilà. Concrètement, c'est quoi le transfert de la richesse vers ces quartiers ? On peut assumer qu'il n'y en ait pas, pour X raisons. Ça aurait mérité d'être en tout cas sous-entendu.
Oui.
Cela étant encore, juste un mot, puisque on parlait au départ de l'intérêt d'un tel document qui est encore une fois le fruit d'un exercice un peu imposé, qui est, comme dans toutes les collectivités, un petit peu compliqué et pas fondamentalement intéressant, même s'il y a beaucoup d'intéressants pour ceux qui savent le lire. Vous voyez, là aussi, il faut changer de méthode. Là aussi, c'est un exercice qui devrait être un exercice démocratique, à condition que tout le monde puisse comprendre le document et à condition que ce soit extrêmement clair. Et on avait obligé, d'ailleurs comme pour l'État, les collectivités locales à faire des débats d'orientation budgétaire pour avoir un débat. Et on voit bien finalement comment ça se transforme. Je ne dis pas pour la Corse, hein, c'est pareil
général,
pour l'État.
Global.
Le débat de budgétaire, d'orientation budgétaire de l'État à l'Assemblée nationale, c'est à mourir de rire ou à pleurer. Je veux dire, voilà. Bon, on a quand même un petit problème démocratique. Et il faut... C'est pas propre à la Corse, mais au contraire, je trouve que c'est plutôt l'Assemblée joue son rôle. Et le document, il est encore une fois bien mieux que ce que j'ai lu ailleurs. Mais là aussi, on doit changer. Les collectivités locales, si on veut conserver notre vie démocratique, ça doit être d'une transparence, comme d'ailleurs l'État devrait l'être. Or là, on se perd en tout, vous comprenez ? Si ça devient une bataille entre experts... dirais, de la fonction publique ou des élus, et encore, parmi les élus, il y en a 4 ou 5 hein, d'experts financiers. Hein, faut pas plaisanter. Hein, chacun, et c'est normal d'ailleurs, puisqu'il représente la population, tout le monde ne peut pas être un administrateur. Je trouve là qu'il y a aussi une réforme fondamentale à faire. Pourquoi, par exemple, ne pas faire chaque année un audit avec une mise en concurrence sur le marché? C'est ce que font un certain nombre d'entreprises avec des commissaires comptables, et vous avez les comptes et vous avez les trucs, et puis à ce moment-là vous avez quelque chose qui est bon, c'est incontestable, on peut pas, et puis là on débat, et puis là on regarde. Dans une entreprise vous faites à peu près comme ça, même si on peut toujours s'arranger avec les arrangements, rien n'est parfait, mais vous voyez ce que je veux dire, on sait après tout ce qui se passe. Bon, on ne sait pas, j'allais dire chez Peugeot ou chez Renault. Bon, là, c'est vrai qu'on ne sait pas. Mais ailleurs, dans des entreprises, les actionnaires sont censés être... Vous êtes actionnaire comme citoyen. Voilà. Alors là, ce n'est pas du tout une critique sur ce document-là. Mais vous voyez qu'on peut changer les choses. Regardons dans d'autres pays. Je ne sais pas si ça se passe comme ça.
Michel Barra.
L'idée de l'audit, elle est bonne. Normalement, c'est ce que devraient faire les chambres régionales des comptes.
C'est ce que devraient faire les chambres régionales
des comptes. Or, les chambres régionales des comptes sont devenues des structures punitives et non plus des structures de conseil et d'accompagnement. C'est complètement inversé. C'est-à-dire que le responsable d'une collectivité va voir un ennemi dans la Chambre régionale des comptes pour savoir quel pouls il va me trouver dans la tête, au lieu de dire quel est le problème qu'il faut réussir à me soulever pour que je puisse m'en débarrasser. On est dans de la folie. Bon, maintenant, ces documents-là, il faut quand même être clair. Ils étaient faits pour qu'au départ, allez, il y ait plus de gens possibles qui puissent comprendre ce qu'est les finances d'une collectivité. Aujourd'hui, nous, on peut en parler. Pourquoi ? Parce qu'on a tous, à un titre ou un autre, été des gestionnaires publics. On peut. Je me demande combien va-t-il y avoir d'élus à l'Assemblée, celle-ci, mais les autres aussi. Hein, attendez, là, il faut être clair. C'est pas vraiment rien à voir à une critique de d'autres assemblées qui sont capables de comprendre ce document.
Ça va peut-être ouvrir aussi sur un autre sujet. C'est qui aura en plus le poids, l'autorité, la volonté politique de dire quelque chose dans un débat d'orientation budgétaire. L'opposition, certes, parfois même de manière caricaturale, un peu de mauvaise foi, parce qu'il faut exister. Mais même à l'intérieur de la majorité, qui a été élu avec des idées et va être capable au moment, face à toute cette structure budgétaire, toutes ces contraintes budgétaires et tout ce fonctionnement technocratique aussi, dans toutes les collectivités, pas que dans celle-ci. Qui va avoir le poids politique de pouvoir dire « Non, je ne suis pas d'accord, le budget vert, il doit être davantage doté, ou le budget vert, c'est une connerie, excusez-moi, je ne le pense pas, mais c'est une connerie, on a d'autres choses à faire. » Qui va avoir ce poids politique de le faire ? De le faire aussi, peut-être un peu en souterrain ?
Réponse cette semaine. Michel Barra, Laurent Dominati, François Casasoprane, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve très bientôt. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui. Et oui, ça passe vite. Ça passe vite.
Je croyais qu'on avait parlé de la territorialisation.
Mais on n'a pas le temps.
Je pensais avoir fait un teasing en plus sur, sur le vote de scrutin.
Je suis pour. Hein,
mais non, vous avez été extrêmement loquace sur les deux premiers sujets. Non, je ne me permettrai pas.
C'est quand même un tour de force d'être loquace sur ce type de sujet.
Exactement. C'est le talent, Michel. Allez, Revue de Corse, ça continue tout le week-end. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h. Ainsi que sur notre site internet corsicaradio.fr. On se dit à très vite. Salut!